La question que nous vous posions pour aujourd'hui était la suivante. La Judée-Samarie est-elle ou est-il le nouvel épicentre du conflit entre Israël et le Hamas? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs?
Alors d'abord, je dois dire qu'à notre décharge, c'est vrai que ça a l'air d'être une question beaucoup moins d'actualité avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais forcément, on l'a posé vendredi à 8h du matin. Et donc, vous savez qu'au Moyen-Orient, ça change très vite. Alors en tout cas, sur cette question-là, nos auditeurs ont répondu oui en majorité, 100% de oui carrément sur X, 70% de oui sur Insta, 92% de oui sur Facebook. Mais c'est vrai qu'avec toute la... Toutes les attaques des Houthis ce week-end, on n'a pas beaucoup parlé de la Judée-Samarie. Alors, on va rapidement évoquer tout de même cette question avec notre invité, Daniel Haïk, bonjour.
Bonjour, Lise.
Vous êtes journaliste et entre autres analyste politique en Israël. Qu'en est-il selon vous de la Judée-Samarie en ce moment, Daniel?
Écoutez, c'est vrai que de prime abord, aujourd'hui, la Judée-Samarie n'est pas au cœur, on va dire, de l'intérêt de la société israélienne, mais effectivement, il faut le souligner, l'armée continue à agir de manière très intense, en particulier dans certains camps palestiniens, à Jenin, à Tul Karem, et l'armée israélienne démantèle de manière systématique les nids de les repères de terroristes du Hamas qui se trouvent dans ces villes en particulier. Je pense bien entendu à Jenin, mais aussi il y a aussi Naplouse et donc Tul Karem sont les trois grandes villes où il y a une intense activité militaire de l'armée israélienne depuis de longs mois. Et ça s'est accentué avec le changement de chef du commandement de la région centre, le général Abi Blout, qui est très actif à ce niveau-là. Mais effectivement, il est important de le souligner parce qu'on ne le dit peut-être pas assez. Tzal lutte de manière efficace dans la bande de Gaza pour tenter d'éradiquer le Hamas. Et le Hamas dans la bande de Gaza a été extrêmement affaibli, ce n'est pas un secret. Il y a des résidus de résistance, entre guillemets, de la part du Hamas, mais on peut dire qu'il n'y a pas d'infrastructure militaire du Hamas aujourd'hui dans la bande de Gaza, alors qu'il y en a un peu plus en Judée, en Samarie. Et donc, il ne faut pas négliger le combat de Tzal dans la Judée et la Samarie. C'est extrêmement présent, mais je dirais que la différence, eh bien, elle s'inscrit surtout dans le fait qu'il y a une présence israélienne en Judée et Samarie. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui permet aujourd'hui, par exemple, l'armée israélienne et au Shin Bet, qui est extrêmement actif aussi, de pouvoir obtenir des renseignements précis sur la moindre tentative d'organisation de la part du Hamas à l'intérieur de la Judée et de la Samarie. C'est ce qui permet de déjouer des dizaines, voire même des centaines d'attentats dans ces régions. C'est ce qui manque, on va dire, à l'armée au Shin Bet au moment du 7 octobre, cette manière d'être aveugle par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, on peut dire que effectivement, l'un des pôles d'activité de la part de l'armée israélienne, c'est bien entendu en Judée, en Samarie. On n'en parle pas beaucoup, vous avez raison, Lise, parce que, eh bien, on va dire, c'est rentré dans une sorte de rengaine. Ça se produit chaque nuit, pendant chaque nuit, et dans ces camps, il y a des interventions de l'armée israélienne, de suite à des informations précises recueillies par le Shin Bet, et c'est rentré dans une forme de rengaine qui, d'une certaine manière, que l'on a tendance à oublier, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'effectivement, il y a des soldats qui combattent au quotidien le Hamas également, je veux dire, en Samarie.
Alors justement, Daniel Haïk, le cabinet de sécurité israélien a approuvé l'extension des opérations de Tzal à Gaza. Il y a des dizaines de milliers de réservistes qui ont reçu ces derniers jours des ordres de mobilisation et beaucoup d'entre eux vont justement aller relayer les soldats de l'armée régulière, active, qui se trouvent dans des zones comme la frontière nord ou la Judée-Samarie pour que les troupes régulières puissent mener cette nouvelle offensive dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, Daniel?
Bien, d'abord, on en sait que il va, tout ce déplacement, effectivement, à l'intérieur de l'armée israélienne, entre les réservistes et les soldats du contingent, va se produire au cours des prochaines semaines. Ça veut dire que il ne faut pas s'attendre à une offensive terrestre massive dans les deux ou trois prochaines semaines. En tout cas, certainement pas dans les deux prochaines semaines. Pourquoi ? D'abord parce que les milliers de réservistes, les dizaines de milliers de réservistes qui ont reçu des ordres de mobilisation d'urgence vont devoir se réentraîner, hein, même s'ils n'ont pas quitté il y a si longtemps que cela leur précédente période de réserve, mais surtout parce que en Israël, il est convenu que l'armée israélienne ne lancera pas d'offensive avant la fin de la visite de Donald Trump dans la région, c'est-à-dire la visite que le président américain doit effectuer en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, au Qatar, entre le 13 et le 16 mai prochain. Ça veut dire avant le 16 mai prochain, eh bien, il est peu probable que l'on assiste à une offensive massive. Le deuxième point, c'est que l'on espère aussi, même y compris côté israélien, que le seul déploiement massif de forces de l'armée israélienne à l'entrée de la bande de Gaza, comme cela va se produire dans des prochains jours, va suffire à persuader le Hamas d'assouplir ses positions et peut-être d'accepter le principe d'un accord qui permettrait la libération de moins une partie importante des otages israéliens. C'est ce que l'on espère du côté israélien. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100% dans une disposition de confrontation. Si tout cela ne se produit pas, eh bien alors là, effectivement, l'armée israélienne va rentrer à nouveau dans certaines parties de la bande de Gaza, mais de manière graduelle, de manière simultanée et graduelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une pénétration des forces israéliennes dans le nord, dans le centre, un petit peu moins dans le sud, parce que le sud devrait devenir alors, vous savez, entre l'axe Philadelphie et le nouvel axe Morag, ça devrait devenir cette zone de humanitaire dans laquelle les habitants de la bande de Gaza vont devoir se déplacer. Et c'est là que l'aide humanitaire sera fournie, pas par l'armée israélienne, parce que le chef d'état-major ne les veut pas, mais par des sociétés américaines qui devraient se déployer sur place dans cette région entre ces deux axes, tandis que le nord et le centre de la bande de Gaza seraient reconquis intégralement par l'armée israélienne et que l'armée israélienne prendrait position solidement sur ces zones, de telle sorte que l'on puisse dire que la bande de Gaza serait rétrécie au moins de moitié par rapport à sa superficie actuelle. Donc c'est un peu l'objectif de l'armée israélienne, mais c'est graduel avec, et on le souligne tant dans l'échelon politique que dans l'échelon militaire, la possibilité de s'arrêter dès que le Hamas manifestera des signes de volonté de conclure un accord sur la libération des otages. Pour l'armée, la priorité reste les otages, mais la libération des otages à travers des pressions de la part des pressions militaires sur le Hamas. Pour l'échelon politique, c'est un peu différent, il faut noter la nuance. La priorité, c'est l'éradication du Hamas, et on considère que l'éradication du Hamas permettra la libération des otages. Voilà la différence en termes sémantiques et concrètement sur le terrain.
Alors, en tout cas, dans cette opération renouvelée de Tsahal dans la bande de Gaza, hier soir au cabinet de sécurité, Benjamin Netanyahou a parlé d'un contrôle militaire sur la zone de manière plus pérenne. Et donc, c'est vrai que là aussi, c'est un débat qui a lieu en Israël depuis le début de la guerre, Daniel Haïk.
Oui, parce que, c'est-à-dire que, on va dire, lorsque Benjamin Netanyahou parle de cette manière, en fait, il se fait l'écho des voix de l'aile droite de son gouvernement, de Smotrich et de Ben-Gvir, qui considèrent que la seule véritable victoire sur le Hamas, eh bien, ce sera une victoire lié à la conquête de la terre. À partir du moment où le Hamas sera privé d'une partie de la bande de Gaza, d'une partie de la superficie de la bande de Gaza, et que cette partie sera intégralement sous le contrôle de l'armée israélienne, eh bien, le Hamas, on pourra dire que le Hamas et a été vaincu, et que l'armée israélienne a vaincu le Hamas, parce que vous savez, le Hamas, c'est pour les terroristes du Hamas, être tué par des soldats israéliens, c'est pas véritablement un problème, je dirais entre guillemets, c'est même une sorte d'aboutissement. Mais par contre, le fait de perdre une terre qui est considérée comme une terre de l'islam, comme la bande de Gaza, et de la perdre au profit d'Israël, c'est considéré effectivement comme une défaite. Et ça, c'est un argument qui a été avancé depuis longtemps, depuis quasiment le début, par Smotrich et Ben-Gvir, et c'est un argument qui aujourd'hui et s'impose d'une certaine manière, y compris au sein du Likoud, y compris dans on va dire le centre droite au sein de la coalition gouvernementale. On comprend que si on veut véritablement cette fameuse victoire totale dont Benjamin Netanyahu a parlé pendant toute la guerre, eh bien ça passe aussi par une reconquête de la bande de Gaza, une réduction de la superficie de la bande de Gaza et on va dire une neutralisation en tout cas de toutes les poches de résistance du Hamas dans ces régions-là.
Très rapidement pour finir, Daniel, cette mobilisation des réservistes, elle est fatigante pour beaucoup d'entre eux qui en sont à leur 6e ou 7e tour de réserve depuis le 7 octobre, alors qu'il y en a d'autres qui ont fait beaucoup, beaucoup moins de périodes. On a l'impression dans Tsahal que ça tombe très souvent sur les mêmes.
Oui, ça tombe très souvent sur les mêmes, sur les combattants, sur les unités de réservistes des fantassins, des blindés, bien entendu. Ça tombe souvent sur les mêmes, effectivement. Alors, cette période, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup qui ont fait 7 périodes de réserve, mais il y a énormément de soldats, de réservistes qui ont fait au moins 4 périodes, au total plus de 400 jours depuis le début de la guerre. Et effectivement, tout cela a un impact extrêmement douloureux sur, par exemple, les relations au sein du couple. Ça peut paraître assez difficile à dire, mais c'est la réalité. Les femmes ont de plus en plus de difficultés à supporter le fardeau de la maison, de la gestion de la maison, des enfants. C'est extrêmement difficile, même si l'armée aide les femmes des réservistes, et bien parfois au niveau du travail, c'est pas du tout évident pour des femmes qui travaillent et qui se retrouvent toutes seules à supporter le fardeau de la gestion de la maison et des enfants. Et puis sur le plan professionnel, je parlais il y a quelques instants à peine avec quelqu'un qui me disait, je donne un exemple très très concret d'un photographe israélien très célèbre de mariage, très célèbre, qui a fait effectuer plus de 400 jours de réserve depuis le début de la guerre et qui a perdu sa parnassa, qui a perdu son emploi parce que, alors qu'il était très connu et qu'il était un photographe de mariage très célèbre, eh bien depuis un an, eh bien il n'est quasiment plus disponible aujourd'hui. Et donc tout cela se répercute. Et le deuxième impact, et ça c'est important de le souligner parce que on l'a mentionné, ça peut paraître paradoxal, il y a aujourd'hui des Israéliens qui, ayant perdu leur travail, eh bien se sont devenus addicts à la réserve. C'est-à-dire qu'il y a dans les journaux et dans des groupes WhatsApp des appels pour les réservistes qui ont été libérés, par exemple, qui ont terminé une période, eh bien, il y en a qui n'ont pas d'autre chose à faire que de retourner à l'armée, et qui sont devenus addicts à l'armée, et qui se disent qu'ils ne retrouvent pas d'abord dans leur cadre professionnel, on va dire, l'engouement, on va dire la motivation de défendre l'État d'Israël qu'ils retrouvent lorsqu'ils sont côte à côte avec leurs compagnons d'armes dans la bande de Gaza, et qui sont prêts à repartir. C'est un phénomène qui est paradoxal par rapport à celui que je viens de vous décrire, mais qui sont prêts à repartir en Milouim et qui s'inscrivent pour remplacer d'autres soldats qui ne sont pas disponibles. Il y a aussi ce phénomène qui bouleverse d'une certaine manière une partie de la société israélienne active, et il est certain que tout cela, lorsque la guerre sera terminée, ça va prendre du temps pour revenir à une sorte de situation normale, si l'on peut dire, dans le monde des réservistes de l'armée israélienne.
Merci beaucoup Daniel Haïk d'avoir été avec nous ce matin, journaliste I24 News, analyste politique en Israël. Bonne journée à vous, à très vite.
Merci Lisa, à bientôt.